Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une femme au destin absolument exceptionnel. La reine Elisabeth II. Pas toute son histoire, puisqu'elle règne depuis plus de 65 ans. Mais le début, son enfance de princesse qui n'a strictement aucune chance au départ d'accéder au trône. Son adolescence pendant la guerre sous les bombardements. Et puis le moment où tout bascule pour elle, la mort de son grand-père, le renoncement de son oncle et son couronnement en 1953. Et je m'arrêterai là. Voici donc ce petit bout d'Histoire royale, réalisé par Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
L'histoire d'Elisabeth II commence par une scène totalement surannée, qui se déroule quelques heures après sa naissance, le 21 avril 1926. Vers 3 heures du matin, le ministre de l'Intérieur se présente au domicile de ses parents, le duc et la duchesse d'York, au 17 Bratton Street, à Londres. Il entre, on l'emmène dans la chambre du bébé. Il se penche de manière tout à fait formelle sur le berceau, et il constate que l'enfant qui vient de naître est bien la fille du duc et de la duchesse. Alors qu'en vérité, il n'en sait rien du tout. Et l'ayant constaté, il fait envoyer un message au maire de Londres dans lequel il atteste de la naissance d'une nouvelle princesse. Tout ça parce que 3 siècles plus tôt, le roi James avait eu un bébé mort-né et lui avait substitué un autre enfant. Donc, une princesse est née, que l'on baptise tout de suite Elisabeth. Elisabeth Alexandra Mary of York. Mais pour l'instant, c'est juste une princesse qui, sur le papier, a très peu de chances de régner un jour sur l'Angleterre. Car certes, elle est la petite fille du roi George V, mais ça n'est pas son père qui doit lui succéder sur le trône, c'est son oncle. Et c'est donc le futur enfant de son oncle qui sera roi, pas elle. Son baptême a lieu un mois plus tard, avec de l'eau venue tout droit du Jourdain, en Terre Sainte. Et on installe le bébé dans une nursery juste au-dessus de la chambre de ses parents. Et on le confie à 2 nounous écossaises, dont l'une, surnommée Alla, oui j'ai bien dit Alla, a déjà été la nounou de sa maman. Ce sont elles qui vont l'éduquer, en vérité, les nounous écossaises, parce qu'à peine nées, ses parents partent pour un long voyage de plus de 50 000 kilomètres dans l'Empire britannique. L'éducation des nounous écossaises est évidemment un peu rigide. Par exemple, Elisabeth ne peut s'amuser qu'avec un seul jouet à la fois. Si elle en veut un autre, elle doit ranger le premier. Ça laissera des traces. Et tous les jours, on l'emmène prendre l'air frais. Dehors. Les repas sont à heure fixe, avec obligation de terminer son assiette. Pas de caprice. Et dès qu'elle a l'âge, après le repas, la princesse doit faire la vaisselle. Assez vite, la petite Elisabeth devient la chouchou de son grand-père, le roi George V. Lui qui ne s'est jamais vraiment occupé de ses propres enfants, devient raide dingue de sa petite fille. Il l'appelle Lilibeth. Un jour, figurez-vous, on le surprend à 4 pattes dans sa chambre, en train de jouer au cheval en hennissant. Alors que la petite Elisabeth l'encourage tout en lui tirant la barbe.
Allez,
En août 1930, Elisabeth a 4 ans, arrive une petite sœur, Margaret. Alors que ses parents, honnêtement, auraient préféré un garçon qui serait passé immédiatement devant Elisabeth dans l'ordre de succession. À partir de ses 5 ans, Elisabeth apprend à lire avec sa mère. Et pour le reste, on recrute des gouvernantes, dont une française, pour lui apprendre le français. On lui enseigne aussi l'histoire, la géographie. Pas trop l'arithmétique, hein. On se dit qu'elle n'aura pas à faire de compte dans sa vie. L'après-midi, les arts, le lundi, cours de danse, le mardi, cours de chant, le mercredi, dessin et le jeudi, musique. Ainsi grandit la jeune princesse Élisabeth, jusqu'à un événement qui va bouleverser sa vie. En 1936, elle a 10 ans, son grand-père, le roi George V, meurt. Et là, il n'y a pas débat. Le roi est mort, vive le roi! Son fils aîné, David, lui succède. L'oncle d'Élisabeth, qui n'était pas le chouchou de son père, il ne l'aimait pas beaucoup. Mais peu importe, il est l'aîné, il devient roi. Et il prend le nom d'Édouard VIII. Et ce jour-là, objectivement, le trône s'éloigne d'Élisabeth. Le roi suivant sera le descendant d'Édouard VIII, qui pour l'instant a 42 ans et toujours célibataire. Mais pas pour longtemps. Depuis quelque temps, le roi, qui est plutôt joli garçon, s'est entiché d'une américaine, Wallis Simpson, et il a l'intention de l'épouser. Il va en faire sa reine. Sauf que, d'abord, elle est protestante, et pas anglicane, elle est deux fois divorcée, shocking, mais surtout, elle fréquente les cercles fascistes anglais, eux-mêmes très proches des nazis, et ça, plus le reste, ça ne passe pas. Édouard VIII est à peine couronné que le gouvernement britannique lui fait savoir qu'il est hors de question que cette femme devienne reine.
« Vous allez devoir choisir, Majesté. Ou vous renoncez à Miss Simpson, ou vous abdiquez. »
Et il choisit, figurez-vous, de renoncer au trône. Par amour pour Wallis Simpson. C'est pas beau ? Alors qu'entre nous, il paraît qu'elle n'était pas très amoureuse, mais surtout intéressée. Mais donc Édouard VIII se sacrifie. Et c'est là que la vie de la jeune Élisabeth bascule, parce que qui devient roi à sa place ? Son frère, Albert, le duc d'York, Bertie, comme on l'appelle à l'époque, le papa d'Élisabeth, qui ne s'y attendait pas du tout, et qui d'ailleurs n'est pas très emballé par l'idée de monter sur le trône. Décidément, quelle famille ! Il faut dire qu'Albert n'a pas vraiment le profil. Il est timide, il est torturé, et surtout, il est bègue. Alors il freine des cas de fer, il veut pas y aller. Un jour, la petite Élisabeth se cache dans l'escalier avec sa petite sœur, et elle entend ses parents qui s'échauffent. Sa mère tente de convaincre son père d'accepter le trône.
« You must accept, Bertie. I don't want to be king, darling. »
Il doesn't want. Mais il finit par accepter. Et le 12 mai 1936, il monte sur le trône et prend le nom de George VI. Et à partir de là, Élisabeth, 10 ans, comprend qu'elle sera reine. Et donc elle se met à observer son père, de loin, à apprendre les gestes, les attitudes. Et elle le voit souffrir d'ailleurs. Il n'est pas très heureux, le roi George VI, à cause de son bégaiement notamment. Il arrive, grâce à un thérapeute, à le maîtriser un peu, mais quand il doit parler en public... C'est un calvaire. Début 1939, Élisabeth a donc 13 ans. Elle fait la connaissance d'un lointain cousin, Philippe de Mountbatten, au cours d'une visite de ses parents, le roi et la reine, au Royal Naval College de Dartmouth. Philippe a 18 ans, il est l'un des élèves, il est grand, il est blond comme un viking, il a les yeux bleu perçant, et pendant toute la visite, elle ne le quitte pas des yeux. Il lui a tapé dans l'œil, alors qu'il a 5 ans de plus. 18 ans. Elle dira plus tard, j'ai su tout de suite qu'il était l'homme de ma vie. Mais l'époque n'est pas aux amourettes. 3 ans après le sacre de George VI, en 1939, la guerre éclate. Élisabeth a donc 13 ans. 1 an plus tard, Londres se retrouve pilonnée par l'aviation allemande. Churchill propose à la famille royale d'aller trouver refuge au Canada.
« Ce serait plus prudent. Vous serez à l'abri des bombardements. »
Mais la reine refuse catégoriquement.
« Mes enfants ne partiront pas sans moi. Et moi, je ne partirai pas sans le roi. Et le roi ne quittera jamais son pays. »
Néanmoins, la famille royale accepte de se replier au château de Windsor, où les caves peuvent servir d'abri contre les bombardements. Et tous les jours, le roi et la reine vont à Londres. Et normalement, ils rentrent le soir. Mais quand les bombardements s'intensifient, souvent, ils restent à Londres et Elisabeth et sa petite sœur Margaret se retrouvent seules à Windsor avec leur gouvernante. Et en octobre 1940, Elisabeth a 14 ans et on lui demande pour la première fois d'adresser via la BBC un message aux enfants d'Angleterre pour leur remonter le moral.
Vous êtes des milliers dans ce pays à avoir dû quitter vos maisons et à vous retrouver séparés de vos pères et de vos mères. Ma sœur Margaret et moi-même, nous compatissons, car nous savons par expérience comment il est dur d'être loin de ce que nous aimons le plus au monde. Chacun de nous sait que tout se terminera bien, car Dieu veillera sur nous et nous donnera la victoire et la paix. Et lorsque reviendra la paix, souvenez-vous qu'il nous appartiendra, à nous les enfants d'aujourd'hui, de faire du monde de demain un monde meilleur et plus heureux.
Elle s'en est bien sortie. 14 ans. Pendant toute la guerre, la princesse Elisabeth verse la moitié de son argent de poche, 5 shillings par semaine, à des œuvres de charité. Rien à dire. En 1942, elle a donc 16 ans, elle intègre l'armée, avec le grade de colonel en chef. Elle ne fait pas la guerre, bien sûr. Elle passe en revue la garde dans la cour du château de Windsor. Mais dans les derniers mois de la guerre, elle intègre l'armée, la vraie, la branche féminine, et donc elle va sur le terrain. Et elle apprend à monter et à démonter des moteurs de camions, et à conduire des engins militaires. Et après la guerre, réapparaît le prince charmant, Philippe de Mountbatten. En vérité, ils ne se sont jamais perdus de vue. Pendant toute la guerre, ils se sont écrits. Mais maintenant, elle veut l'épouser. Et c'est pas gagné. D'abord, il n'est pas britannique, il est grec et orthodoxe. Ensuite, il est fauché comme les blés, il n'a même pas de maison. Mais surtout, il a des origines germaniques. Et ses 4 sœurs ont épousé des nazis très proches d'Hitler. Et enfin, il a 5 ans de plus qu'elle et elle tout juste 20 ans. Et donc, le roi et la reine lui demandent d'attendre. Alors elle attend. Entre-temps, Philippe obtient la nationalité anglaise, il se convertit à la religion anglicane. Et en juillet 1947, ils finissent par se fiancer. Et 4 mois plus tard, ils se marient à l'abbaye de Westminster. Et au passage, il devient duc d'Édimbourg. Et leur premier voyage officiel à l'étranger a lieu en France, à Paris, en mai 1948. Un soir, ils vont dans un nightclub près des Champs-Élysées, chez Carrère. Et pour l'honorer, Édith Piaf vient chanter à sa table.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Ce jour-là, personne ne l'a remarqué. Mais Elisabeth ne boit pas une seule goutte d'alcool. Elle est enceinte de 3 mois, Charles. Et 2 ans plus tard, en août 1950, elle donne le jour à une petite fille, Anne. En février 1952, la princesse Elisabeth, qui a maintenant 26 ans, entreprend avec son mari Philippe, le duc d'Édimbourg, un voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et en chemin, la route est longue à l'époque. Ils font étape dans l'une de leurs colonies, le Kenya. Alors arrivés à Nairobi, ils sont accueillis par les dignitaires locaux et ils partent en safari pour 2 jours, dans la région du Mont Kenya, dans un hôtel qui s'appelle le Tree Top, dans lequel on leur a réservé une chambre absolument exceptionnelle. Un bungalow, une cabane juchée sur un gros figuier, avec vue sur la savane.
Oh, Philippe, tu as vu les éléphants là-bas? Regarde à droite, regarde le troupeau de rhinocéros. Oh, comme je regrette que papa ne soit pas là.
La princesse a une petite caméra. Elle filme tout ce qui bouge. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que quand elle descendra de cet arbre, tout à l'heure, elle sera reine. Car à 10 000 km de là, la BBC vient de l'annoncer, une terrible nouvelle. Son père, le roi George VI, est mort.
It is with the greatest sorrow that we make the following announcement. It was announced from Sandringham at 10:45 today, February the 6th, 1952, that the king, who retired to rest last night in his usual health, passed peacefully away in his sleep.
C'était un gros fumeur. On savait qu'il avait un cancer du poumon. Il est rentré de la chasse, épuisé. Il s'est couché tôt. Le lendemain matin, vers 7h30, son valet est allé frapper à sa porte.
Her Majesty! Her Majesty!
Il est entré. Et il l'a trouvé mort. Infarctus, à 56 ans. Tout de suite, le palais de Buckingham envoie un message codé à Nairobi, au siège de l'administration coloniale. Mais pour le lire, l'employé qui le reçoit a besoin d'un code. Et le code est enfermé dans un coffre-fort. Et il ne trouve pas la clé.
Mais qu'est-ce que j'ai fichu de cette fichue clé?
Et ça dure, et ça dure. Toute l'Angleterre est au courant, mais pas la princesse, pas sa fille. Finalement, on trouve le code. Et vers 13h30, ça fait 6 heures que le roi a été retrouvé mort. On prévient, non pas la princesse, mais son mari Philippe. Pour lui annoncer la nouvelle, Philippe l'emmène marcher dans le jardin de l'hôtel. Et après quelques circonvolutions...
Ma chère, votre père, le roi George VI, est mort.
Le visage de la princesse se crispe, ses yeux se remplissent de larmes, elle se mord les lèvres, mais elle ne pleure pas. Comme disait son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, « Never explain, never complain », ne jamais se justifier, ne jamais se plaindre. On lui a appris à ne pas pleurer en public, depuis toute petite. Évidemment, le couple princier annule la suite du voyage et rentre tout de suite à Londres. Ils atterrissent à l'aéroport d'Heathrow. Le Premier ministre Winston Churchill est là, tout en noir, et avec lui tout le gouvernement. La porte de l'avion s'ouvre et la future reine, robe noire et chapeau noir, apparaît. Et ce qui est incroyable, c'est qu'une fois de plus, elle ne pleure pas. Quand elle serre la main de Churchill, elle affiche même un petit sourire. Elle se tient déjà comme une reine. Et on lui demande « Sous quel nom souhaitez-vous régner ?»«
Oh, mais le mien! Pourquoi en prendre un autre ?»
Elle sera donc la reine Élisabeth II, car il y a déjà eu une reine Élisabeth il y a 400 ans. La date du couronnement est fixée au 2 juin 1953. Le prince Philippe est chargé de l'organisation. Il est question d'un défilé aérien. Le prince met l'aviation britannique en garde.
« Attention, messieurs !» Si vous faites passer les avions à la verticale, la reine ne pourra pas les regarder sans faire tomber sa couronne.
La BBC propose de retransmettre l'événement en direct. Au début, tout le monde s'y oppose, à commencer par le Premier ministre Winston Churchill.
Mais enfin, nous ne pouvons pas aveugler la souveraine avec des lumières trop vives, trop brûlantes.
L'église anglicane non plus n'est pas emballée.
Si les gens regardent le sacre à la télévision, chez eux, dans leur salon, en mangeant des sandwichs. La cérémonie perdra tout son sens divin.
Mais finalement, on finit par autoriser les caméras à l'intérieur de l'abbaye de Westminster. La future reine refuse juste que l'on filme le moment où l'archevêque de Canterbury va pratiquer l'onction suprême. Pour la première fois donc, un couronnement sera retransmis en direct dans 5 pays européens. Élisabeth a choisi sa robe, blanche, absolument identique à celle de son mariage, si ce n'est les broderies qui représentent toutes les provinces du Royaume-Uni. 2 semaines avant le couronnement, on procède à des répétitions à Westminster. Élisabeth y va 3-4 fois et dans la salle de bal du palais de Buckingham, où Élisabeth, avec un drap sur les épaules pour simuler sa traîne, s'applique à répéter les gestes et les placements. Et à porter la couronne, parce qu'elle pèse 2 kilos d'or et de pierres précieuses. Il ne faudra pas qu'elle la fasse tomber. Et arrive le grand jour. Dès l'aube, la foule envahit les rues de Londres pour voir passer le carrosse, énorme tarte à la crème de 7 mètres de long qui emmène Élisabeth vers l'abbaye de Westminster. À l'intérieur de l'abbaye, on prit place tout ce que la planète compte de chefs d'État, de rois, de reines, de princesses, de princes, de ducs, de duchesses et tout le toutim. La reine-mère et Margaret arrivent à 10h30. On n'attend plus qu'Élisabeth. Et la voilà. Avant de pénétrer sous les voûtes de Westminster, elle vérifie l'ajustement de sa traîne. Elle se tourne vers ses demoiselles d'honneur en souriant.
All right, girls.
Élisabeth arrive devant l'autel. Elle prête serment par écrit de servir son pays et ses sujets. Et puis elle s'avance vers la chaise du roi Edward, sur laquelle depuis 1308, tous les rois d'Angleterre ou presque ont reçu l'onction suprême. Elle s'assoit. On dresse au-dessus d'elle un baldaquin, car personne ne doit voir ce qui va se passer maintenant. Et surtout pas les caméras. L'onction, c'est par ce geste qu'elle va devenir reine. À l'ombre du baldaquin, l'archevêque de Canterbury se saisit d'une petite cuillère en argent. Il y verse quelques gouttes de saint crème, l'huile sainte. Il y plonge 2 doigts et il trace une croix sur sa tête, sur sa poitrine et sur la paume de ses 2 mains.
Comme Salomon a été sacré roi par le prêtre Zadok et le prophète Nathan, sois sacré, béni et consacré reine des peuples que le Seigneur ton Dieu t'a donné à diriger et à gouverner.
On lui remet ensuite les insignes de la royauté, une épée, 2 sceptres et 2 bracelets. Et l'archevêque pose sur sa tête la couronne de Saint-Édouard. Élisabeth va s'asseoir sur le trône et un à un, les princes et les pairs du royaume, son mari le duc d'Édimbourg en tête, viennent lui prêter allégeance à genoux. Élisabeth est reine et pour longtemps. Et pour la première fois de l'histoire du monde, 27 millions d'Européens ont suivi son couronnement en direct à la télévision.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.